9h-11h, François Claus.
Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures de balade, de réflexion dans le monde de l'information, prendre un peu le temps de faire le tour de la question, avec une petite pensée pour notre amie Wendy, qui prend un repos bien mérité, que vous retrouverez bien sûr dès lundi. Julie, elle est là, fidèle au poste. Bonjour,
bonjour
Julie.
Bonjour.
Nous allons évidemment prolonger la fête, car c'est la fête de la musique. On pense un peu au Rodolphe, parce que c'est normalement la Saint-Rodolphe aujourd'hui, mais 21 juin, tout le monde dit fête de la musique.
Et jour de l'été, c'est ça, premier
jour d'été ? Et jour de l'été, oh, c'est évidemment la journée la plus longue, la nuit la plus courte de l'année. Qui aurait pu penser il y a tout simplement 38 ans que cette idée, née dans l'euphorie des années 80, allait, 38 ans plus tard, devenir une fête universelle et devenir un rendez-vous incontournable. Comment cette fête de la musique a évolué du délire des années 80, on descendait dans la rue avec son instrument jusqu'au concert gigantesque des années 90, en passant par l'électro qui entre à l'Élysée l'année dernière. Nous allons essayer de voir comment cette fête de la musique nous a finalement accompagnés depuis 38 ans et comment, d'une certaine manière, elle a accompagné le mouvement de la société avec le papa de la fête de la musique qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Il doit être bien fier de sa petite fille qui a aujourd'hui 38 ans. J'ai nommé évidemment monsieur Jack Lang qui inaugurait la fête de la musique à Rungis ce matin et qui est en route. Il va arriver d'un instant à l'autre dans ce studio. À partir de 10h, Julie, deuxième question. Ça nous a évidemment un petit peu effrayé de voir que 4 ans et demi après Charlie, il y avait de nouveau des polémiques et des menaces sur les caricaturistes. Elles sont évidemment beaucoup moins graves, mais le New York Times en édition internationale a décidé, après un dessin jugé antisémite par une partie de l'opinion publique, tout simplement de supprimer les caricatures. Gros émoi dans le monde. La une de Charlie Hebdo sur la Coupe du Monde féminine, pourtant tellement dans l'esprit, Charlie a choqué également. Il y a le Canard Enchaîné qui a mis un encart blanc à la une de son journal pour protester. Nous allons essayer de comprendre pourquoi, aujourd'hui, à l'heure de l'image reine, il devient si difficile pour les caricaturistes de s'exprimer. Ce que ça veut dire également de notre monde. Le grand dessinateur Plantu sera notamment avec nous tout à l'heure à partir de 10h. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. On fait le tour de la question.
9h-11h, on fait le tour de la question avec François Claus sur Europe 1.
Bonjour Jean-Éric Perrin.
Bonjour François.
Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Vous êtes un chroniqueur musical, critique, historien. Vous avez de nombreuses publications.
De grosses casquettes,
mais difficile à résumer. Bon, on peut citer l'art du rap aux éditions Palette, notamment.
Qui vient de sortir, oui.
Qui vient de sortir et qui est de votre dernier opus. Mais vous êtes un des fins observateurs de cette évolution musicale. Cette fête de la musique, je disais, elle a accompagné notre vie, elle a accompagné les époques. Vous souscrivez à cette idée ?
Oui, c'est indéniable. Elle est rentrée dans le calendrier comme les fêtes religieuses quasiment maintenant. Elle est là, on sait que voilà, le 21 juin, c'est le jour de l'été, de la fête de la musique. Souvent le jour où il pleut, mais aujourd'hui on a de la chance. Mais voilà, elle fait partie des meubles. Elle est plus remise en question, à part quelques personnages un peu grognons qui préfèrent se coucher tôt ou regarder leur télévision tranquillement sans être dérangés par le bruit des djembés et des guitares.
Et pourtant, que ça fait du bien d'entendre de la musique dans la rue. Il est avec nous au téléphone depuis Bruxelles. Bonjour Yves Bigot.
Bonjour François.
Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre Yves sur l'antenne d'Europe 1. Vous qui avez incarné la musique pendant 17 saisons à Europe 1. Vous êtes aujourd'hui le directeur général de TV5 Monde. Vous avez accompagné même Jack Lang dans les années 80. Cette fête de la musique, elle accompagne finalement Yves nos vies. On a chacun un souvenir, une date, un moment qui nous ramène à la fête de la musique.
Oui, et qui nous ramène, vous le disiez François à l'instant, aux années 80, hein, parce que c'est un des marqueurs importants, c'est pas le seul évidemment, mais des années Jack Lang et François Mitterrand, notamment celle du premier septennat, hein, puisque la fête de la musique démarre quasiment en même temps. Et c'était quelque chose qui était vraiment tout à fait nouveau et en rupture à l'époque, hein, maintenant. Vous le disiez à l'instant, c'est rentré dans les mœurs, c'est une habitude. D'ailleurs, le but, ça n'est pas que la fête de la musique soit uniquement le 21 juin, c'est qu'elle le soit tous les jours maintenant dans la France. Parce que jusque-là, jusqu'à l'institution de la fête de la musique, il faut dire, et puis c'était une journée emblématique et d'une politique un peu globale, hein, voulue par Jacques Lang, notamment de l'enseignement de la musique aussi, qui jusque-là
était réservé à une forme d'élite en France, ouais.
Bien sûr, à la grande bourgeoisie, aux enfants de riches qui avaient accès aux conservatoires, aux études, etc. Mais c'était pas quelque chose qui était démocratisé, d'une part pour son enseignement, mais ni non plus absolument répandu comme étant quelque chose d'évident. Vous savez, il y avait cette blague qu'on racontait beaucoup, c'était que si vous étiez en Angleterre et vous étiez dans un train, dans un compartiment avec quelqu'un qui avait des instruments, vous lui disiez « Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»« Ben, je suis musicien. »« Ah bon, qu'est-ce que vous faites comme genre de musique ?» Alors qu'en France, on disait « Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie ?»
Oui, ça résumait bien l'esprit, l'Angleterre, grand pays évidemment de musique. Yves, on va essayer d'améliorer les conditions de la communication là, qui entre Bruxelles et Paris sont un petit peu difficiles. Là, on va vous rappeler pour avoir une meilleure ligne et évoquer évidemment avec vous tous vos grands souvenirs de musique que vous partagez avec les auditeurs d'Europe 1. À l'époque, le papa de la fête de la musique, Jacques Lang, est en route. Il était à Rungis ce matin, il va nous rejoindre d'un instant à l'autre. On dit parfois, Jean-Éric Perrin, que cette fête spontanée qui était, on descendait dans la rue devant chez soi avec son instrument, a perdu de son sens, de son authenticité au fil des ans. En fait, elle a évolué, mais elle n'a pas forcément perdu de sa verve.
Non, elle a plus. C'est indéniable qu'elle n'a plus le même impact aujourd'hui. J'en veux pour preuve, par exemple, j'ai découvert ce matin dans un quotidien fameux qui, tous les ans, donnait sur plusieurs pages le programme de la musique, en l'occurrence Libération, et ce matin, il n'y avait rien, quoi. Donc, je pense que c'est juste un détail, mais c'est significatif.
Mais tout le monde l'a sur son portable maintenant,
c'est aussi ça. Oui, mais c'est quand même significatif. C'est vrai que cette fête, elle a vécu, elle a eu différents âges, en fait. Il y a eu l'émergence qu'évoquait Yves à l'instant, avec ce côté effectivement très festif, où c'était nouveau. Donc voilà, c'était un événement très, très important à ce moment-là. Ensuite, il y a eu une espèce, je dirais pas une récupération, mais une adaptation de cette fête à l'industrie musicale, avec ses énormes concerts, avec des superstars qui faisaient des concerts à cette
occasion-là. On se souvient notamment de James Brown, concerts d'Oasis en 2000 à Paris. Mais il y avait un esprit, comme vous disiez, je vous propose, allez, on va dans les archives d'Europe 1, nous sommes le 21 juin 1982, nous sommes Place Maubert, je ne vais pas vous dire, cette voix, elle nous manque, vous allez la reconnaître tout de suite.
Ça me plaît énormément ce qui se passe ce soir, c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'être avec vous. Mais d'un autre côté, j'espère qu'on va faire en sorte que ça se reproduira beaucoup plus souvent. Parce que c'est une bonne façon de vivre dans une ville que de chanter, de se déguiser, de faire de la musique. Ça changera les mots qui s'entassent sur les bas-côtés de l'ennui. Je veux cette fille qui est avec moi. Je veux cette fille, comprenez-moi. Yeah. Quand je suis entré avec elle, elle avait un petit coup dans l'air.
L'énergie, Julie, la voix éraillée
de Jacques Higelin,
bien évidemment. Et alors, il faut revivre la scène, il était debout sur la remorque d'un camion. Place Maubert, là où a été enregistré cet extrait, puis après il se baladait dans Paris, il est allé jouer ensuite au Trocadéro. Julie, vous l'avez vécu aussi comme nous tous, cette fête de la musique, c'était ça.
La première fête, c'était incroyable, parce qu'on rentrait même dans la cour d'un hôpital, et on avait un artiste comme Jean-Jacques Goldman, par exemple, qui jouait là. C'est incroyable. Et maintenant, on a l'impression que les grandes vedettes n'y participent plus à cette fête de la musique. Voilà, peut-être.
Alors, c'est compliqué et on va voir pourquoi. Raison de sécurité aussi, business du disque aussi. On va essayer évidemment de faire le tour de la question pour comprendre comment cette fête de la musique est toujours là, vivace, et comment elle a évolué. N'hésitez pas à apporter vos propres témoignages de fête de la musique 39-21 pour vous.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour affranchir en quelques clics seulement jusqu'à 25 colis en même temps.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
38 ans après son lancement, elle existe toujours et même à l'international. On parle de la fête de la musique aujourd'hui, François Claus.
On en parle dans un instant avec son papa, son créateur, Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture aujourd'hui, président de l'Institut du Monde Arabe, qui inaugurait à tout seigneur, tout honneur, cette fête de la musique. C'était ce matin à Rungis. Il nous rejoint là dans les studios d'Europe 1. Pas facile de circuler en région parisienne un vendredi matin, on le sait, mais il sera, c'est promis, avec nous. Jean-Éric Perrin, auteur, critique musical, est avec nous en studio. Et Yves Bigot, le directeur général de TV5 Monde, est avec nous au téléphone depuis Bruxelles. Émission bien évidemment émaillée de musique, émaillée de souvenirs. Jean-Éric Perrin, on dit que la musique est un des facteurs de lien social important. C'est ce qu'on a découvert un peu avec cette fête de la musique dans les années 80. Aujourd'hui, il y a une pratique différente des coups de la musique. On est là au casque, il suffit d'être dans une rame de métro ou de se balader.
On a totalement changé de paradigme par rapport au moment où la fête de la musique a été créée. C'est évident, aujourd'hui, la musique, on l'a dans sa poche en permanence, 24 heures sur 24. On peut être relié à elle en posant le doigt sur l'écran de son téléphone. C'est sûr que c'était pas du tout la même chose à l'époque. Il y avait une démarche à faire. Il y avait un besoin de se réunir pour ça. C'était un partage qui était plus dans la réalité. Effectivement, on se prêtait des disques, on se prêtait des cassettes avant qu'on avait enregistré.
On enregistrait sur cassette. Copain, ouais.
Donc, on avait ce rapport, disons, plus étroit, plus humain avec la musique. Aujourd'hui, on a une relation qui est quasi permanente et du coup qui est totalement désincarnée. Mais bon, voilà, c'est le progrès sans doute qui veut ça. Quoi.
Mais en même temps, il y a ce paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme d'individualisation de l'écoute avec des moyens de plus en plus sophistiqués. Il faut signaler la qualité de son qu'on a aujourd'hui avec les casques. Et il y a aussi un besoin quand même de partage. Jamais il y a eu autant de monde dans les concerts,
absolument,
jamais autant de monde,
oui,
dans les festivals. Et la fête de la musique s'inscrit dans cette idée toujours qu'au-delà de la musique qu'on écoute au casque dans son coin, on partage les émotions.
Oui, totalement. Elle a été même un peu l'initiatrice de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où tous les ans, une fois par an, comme ça, tout le monde se réunissait, donc que ça soit au petit bistrot du coin, au coin de la rue, ou dans des méga concerts avec des stars internationales, il y avait ce partage, ce geste, ce mouvement un peu dionysesque, on pourrait dire, pour que les gens se réunissent autour de ça, autour du fait de partager la musique, qui était quelque chose d'un peu nouveau, puisqu'en fait on peut garder de l'œuvre de Jack Lang et de cette période-là le fait que une volonté de donner à cette musique populaire, cette musique qui était un petit peu méprisée, qui rentrait pas dans les cadres de la culture officielle, d'être devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement quelque chose de planétaire, d'établi, quelque chose qu'on partage tous. Et on a un peu oublié, mais effectivement ça a été une vraie démarche, une vraie volonté de donner à cette musique populaire, la musique de rythme, la musique de jeunes, quelle que soit la façon dont on la caractérise, qu'elle devienne quelque chose d'officiel. Donc il y a eu effectivement la fête de la musique, il y a aussi la création des zéniths, des salles de spectacle un peu dignes,
oui,
qu'on n'avait pas en France.
Qui a accompagné ce mouvement.
En France,
oui.
les musiques qu'on appelle électriques, on n'avait rien. À Paris, les gens un peu âgés comme moi se souviennent d'avoir été voir des concerts dans des endroits un peu improbables, dangereux, qui menaçaient
de s'écrouler. Les chapiteaux
portes de la Villette,
où
il fallait traverser des no man's land comme ça, au risque, au péril de sa vie quasiment. Donc voilà, ça fait partie de ça. Il y a eu aussi un certain nombre d'actes de loi au niveau des droits d'auteur. Donc tout ça, tout ça mis ensemble, a donné effectivement à la musique populaire une force, et une force en France aussi, ce qui fait qu'on a une sorte d'exception culturelle, comme on l'a pour le cinéma, on l'a aussi pour la musique. En France, c'est un des rares pays qui n'est pas assommé par la musique anglo-saxonne qui est planétaire. Si vous allez n'importe où, en Thaïlande, en Grèce, je ne sais pas où, vous allez manger du Rihanna, du Lady Gaga. Enfin voilà. En France, les artistes qui vendent le plus encore sont des artistes français. Et la fête de la musique, avec les autres choses que je viens de citer, fait partie de cette responsabilité joyeuse.
Et puis Yves Bigot, là je m'adresse peut-être plus au directeur général de TV5 Monde, elle est aujourd'hui universelle, interplanétaire, elle rejoint un peu la fête païenne, puisqu'on fête l'arrivée de l'été partout dans le monde, mais elle a essaimé de manière absolument incroyable, ce qu'on ne mesure peut-être pas suffisamment en France, Yves.
Bien sûr, d'ailleurs elle se déroule aujourd'hui à Bruxelles où je me trouve, et un peu partout dans le monde, et d'ailleurs à TV5 Monde, nous relayons la grande émission de France 2 partout sur la planète, auprès 370 millions de foyers, mais oui, il y a plus d'une centaine de pays aujourd'hui qui fêtent la musique à l'occasion du solstice d'été partout sur la planète. Et je me souviens d'ailleurs à la fin des années 80 d'une fête de la musique qu'on avait exportée à New York. C'était le début d'ailleurs de la grande exportation de ce qu'on appelait la sono mondiale parisienne, hein, avec des artistes comme la Mano Negra, comme Maury Canté, les Gypsy Kings, etc.
Qui se produisait ce soir-là, je crois me souvenir, du côté de Central Park, pour une soirée absolument exceptionnelle. Alors Yves, je vous ai demandé, moi, quelques souvenirs de musique, de fêtes de la musique. Vous m'avez cité Higelin, comme beaucoup de monde, ceux qui ont vécu les fêtes des années 80, il en était l'un des porte-drapeaux. Et puis vous avez cité un autre titre. Whenever, Whenever, bien sûr, de Shakira, Yves.
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un souvenir évidemment important parce que donc, quand j'étais patron des programmes de France 2, on fêtait par des grandes émissions de prime time en extérieur la fête de la musique tous les ans. Et Shakira était une des vedettes qui était venue dans une des plus spectaculaires. On en a fait beaucoup, Trocadéro, Invalides, etc. Mais notamment celle-là, c'était au château de Versailles. Sur le parvis et dans les jardins, là où Pink Floyd avait donné un concert des années auparavant, et notamment voilà, Shakira était une des vedettes de ce qui sans doute était la plus spectaculaire et la plus belle des fêtes de la musique qu'on ait réalisées pour France 2, puis justement avec cette image qu'on donnait de la France et de la musique en France au monde entier.
Shakira, reine soleil d'un soir, donc, du côté de Versailles. Restez avec nous encore quelques minutes, Yves. Je sais que vous avez des obligations, mais on a encore beaucoup de questions à vous poser. Également à Jean-Éric Perrin, qui est avec nous, et avec le ministre. Il se fait attendre, mais c'est, je dis ministre, l'ancien ministre, mais à tout jamais le ministre de la Culture, de la Fête, de la Musique, ça c'est sûr, qui va nous rejoindre ici, dans ce studio. On fait le tour de la question ensemble, Julie.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Nous sommes donc le 21 juin et la France s'apprête à fêter sa 38e édition de la Fête de la Musique. Comment ce rendez-vous a-t-il évolué au fil des années? On en parle avec François Claus et ses invités.
Lié souvent au mouvement de notre société, lié également à notre pratique de l'écoute de la musique. Yves Bigot, le directeur général de TV5 Monde, est avec nous au téléphone depuis Bruxelles. Jean-Éric Perrin est ici en studio, auteur critique de musique, dont vous pouvez lire notamment le dernier ouvrage, L'art du rap, aux éditions Palette. Et Jack Lang, le créateur de la Fête de la Musique, va nous rejoindre dans quelques instants. Jean-Éric Perrin, je citais votre ouvrage sur le rap. On a vu apparaître au fil des années des nouveaux genres musicaux. On a eu les années disco, on a eu les années punk, on a eu les années électro. L'année dernière, même dans le Palais de l'Élysée, on rendra tout à l'heure un hommage à Cassius, à Philippe Sdar, qui nous a quitté hier, oui, et qui devait se produire aujourd'hui, d'ailleurs, pour la Fête de la Musique. On a vu, finalement, les genres musicaux envahir la Fête de la Musique au fur et à mesure des décennies.
Ben, c'était un des avantages et une des forces de cette Fête de la Musique, justement, c'est qu'elle s'appelle la Fête de la Musique et non pas la Fête du rock, de la variété, de la chanson, du punk, du reggae, de quoi que ce soit. C'était une façon de mettre tout ensemble tous les genres musicaux qui peuvent être souvent un peu opposés ou en tout cas qui n'interpelle pas forcément le même public. Et justement, c'était un des seuls endroits où on pouvait, dans une soirée comme ça, passer d'un genre à l'autre.
Oui, on peut passer de chant lyrique, baroque, et puis du punk, 10 mètres plus loin.
Tout
quoi.
À fait. Il n'y a pas d'autres circonstances où on puisse, comme ça, passer, comme vous dites, du chant baroque au reggae ou au rap ou à quoi que ce soit d'autre. C'est la force de cette fête-là, c'est de détruire toutes les barrières fausse qui existe entre la musique et de permettre justement aux gens qui sont plutôt proches d'un genre ou d'un autre de découvrir, d'être confrontés à des genres que a priori ils rejetteraient parce qu'ils disent mais ça c'est pas pour moi, moi je consomme de la musique classique par exemple, donc je vais pas aller écouter un groupe qui fait du métal, et puis peut-être qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir un intérêt, quelque chose qui va se créer là, qui va avoir des suites ou pas, peu importe, l'important c'est que le moment existe. Et la fête de la musique, c'est ça, c'est ces moments-là.
Yves Bigot, vous constatez que la musique s'est décloisonnée. Il fut un temps où on était folk, on était punk, on était aujourd'hui, la pratique musicale est beaucoup plus éclatée et on peut écouter du Johnny Cash et du Beethoven, par exemple, dans une même soirée.
Alors oui, bien sûr, les musiciens eux-mêmes, hein, ils ne sont jamais sectaires. C'est le langage le plus universel de la planète. On n'a pas besoin de parler la même langue pour jouer de la musique ensemble. Souvent, parfois, ce sont plus le public, voire les critiques, hein, qui sont ceux qui créent des silos ou des chapelles. Mais oui, je pense qu'on est dans un monde qui est totalement postmoderne maintenant, hein, où ce qui est intéressant, c'est justement la diversité. Et d'ailleurs, la fête de la musique, dans les années 80, quand elle a été créée, elle a révélé justement la diversité incroyable des musiques qui existaient en France et des gens qui jouaient de la musique en France, que ça soit de manière professionnelle, hein, ou de manière quasi familiale, amateur, et a fait que se sont rencontrés. C'est d'ailleurs comme ça qu'est née la fameuse Sono Mondiale, hein, ou World Music parisienne. C'est que on a découvert qu'en France, il y avait des gens qui jouaient du jazz manouche, il y avait des gens qui jouaient du flamenco, il y avait évidemment beaucoup de musiciens classiques, il y avait des gens qui jouaient du rock, il y avait des Africains qui faisaient de la musique et qui jusque-là faisaient tous de la musique dans des ghettos ou dans des chapelles particulières. Et le fait, avec la fête de la musique, de donner la possibilité à tous ces gens de jouer dehors, donc au vu de tous, y compris des voisins, y compris peut-être de gens qui n'aimaient pas la musique, c'est ce qui a permis aussi de largement accentuer et de faire admettre et de faire comprendre aussi ce brassage musical qui a vraiment donné une identité particulière, en tous les cas, à la musique, non pas parisienne, parce qu'elle n'est pas parisienne, même s'il y a toujours nos titis et le jazz manouche des puces, mais de comprendre que Paris était un creuset des musiques du monde qui d'un seul coup se rencontraient et se découvraient.
Et de le revendiquer parfois avec fierté justement devant les autres dans la rue, devant un public qui n'était pas celui, le public captif qui venait habituellement écouter ces groupes. Jean-Éric Perrin, quand je vous ai demandé quelques souvenirs, vous en avez cité plusieurs ou quelques moments forts. Il y a, vous m'avez cité aussi, puisqu'on parlait de monde post-moderne, vous m'avez cité ça en musique.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide et plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement seule? Celle dont j'ai l'air, souvent je change. Regarde, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, t'es maquillé le noir à mes yeux. Ôté le rose à mes joues, je viens.
On aura reconnu évidemment Clara Luciani, le titre Nu. Il me semble comprendre pourquoi vous avez cité ça. Il y a de la French Touch, voilà, il y a de la modernité.
C'est aussi une chanson qui parle de la musique, parce que c'est une chanson qui raconte en fait l'année que vient de passer cette artiste qui a été découverte par le grand public et qui a rencontré le succès qui n'était pas forcément prévu au départ, puisque beaucoup d'artistes sont sur la ligne de départ et il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc c'est une chanson qui raconte comme ça cette sorte d'épiphanie, d'extase à avoir réussi à trouver sa place dans la musique. Et je trouve que ça correspond tout à fait bien évidemment au thème de cette émission.
Parfois me dépasse, parfois est trop petit, peur que ma chance me quitte. Je cours partout, je m'ennuie vite. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux.
Ah, ça va être cruel de le couper, ce nu de Clara Luciani, qui résume à la fois dans le parcours de l'artiste et également dans ce qu'elle exprime musicalement, ce qu'est cette fête de la musique, avec, allez, on va dire une French touch, allez, quasiment à vocation internationale, tant ce titre peut dégage une forme d'universalité. Je vous l'avais promis, il serait là, il vient d'arriver. Nous allons lui ouvrir le micro dans un instant. Une courte pause, nous faisons le tour de la question. La fête de la musique, 38 ans après, nous sommes ensemble jusqu'à 10h.
Nous célébrons la fête de la musique, il est 9h30 sur Europe 1 et nous accueillons un nouvel invité.
Un nouvel invité, son créateur. Bonjour Monsieur Jack Lang.
Bonjour et pardon d'être en retard. Nous étions ce matin avec le ministre de la Culture à Rungis pour donner les trois coups, ou plutôt le la.
Le là de cette fête de la musique, racontez-nous l'ambiance à Rungis ce matin.
Ultra
vous étiez
sympa.
Avec les gens qui se lèvent très tôt.
Ah, qui... Oui, des gens qui avaient passé la nuit à Rungis, vous savez, et qui tout à coup se précipitaient sur des sandwichs, de merveilleuses victuailles, et qui en même temps chantaient, dansaient, c'était merveilleux.
L'esprit de 82 est toujours là, Jack Lang?
Je crois, j'ai écouté d'ailleurs tout au long de mon transport laborieux dans le trafic parisien, l'émission, votre émission, bravo d'abord, vous racontez les choses, vous-même, Yves Bigot, Julie, c'est fantastique. Oui, je crois que l'esprit est toujours là, même si, comme vous l'avez très bien expliqué, bon, les choses changent parce que le monde évolue, les pratiques musicales, etc. Mais je crois, il faudrait pas oublier que la fête de la musique, c'est pas seulement Paris. C'est les villages. Par exemple, là, je suis en rapport permanent avec un merveilleux village que je ne suis jamais allé, mais je connais ses animateurs, Beauregard, dans le Lot. Tout à l'heure, je leur ai envoyé une petite vidéo. Depuis 10 ans qu'ils ont créé la fête de la musique là-bas, c'est tous les habitants qui, plusieurs semaines à l'avance, se préparent, imaginent. Cette année, par exemple, ils ont décidé de consacrer la fête de la musique au monde du silence et au commandant et au commandant Cousteau.
Ils sont pas au bord de la mer, pourtant.
C'est pas au bord de la mer, absolument. Il va y avoir des monstres marins qui, m'a-t-on dit, qui vont envahir les maisons. Enfin, ils ont un sens de l'humour particulier. Et bon, c'est ça qui est fantastique. C'est quand les gens s'approprient l'événement, en font leurs choses, leur vie.
C'était ça votre but à l'époque. Racontez-nous un peu quand vous êtes dans le bureau, on imagine, de François Mitterrand en 81, et vous lui dites il faut faire une fête de la musique. D'où est venue cette idée? Revenez sur la genèse.
Ça, les idées, elles viennent de l'esprit facilement. Ce qui est plus
Après,
difficile, c'est de les réaliser. Non, je m'étais dit simplement, c'était de, je sais pas, vers la fin de l'hiver 81. Avec François Mitterrand, nous avions, je crois, commencé à révolutionner beaucoup de choses, surtout pour les arts, pour les artistes, dans tous les domaines. Et puis, je réunis une bande d'amis proches, dont Maurice Fleuret et Christian Dupavillon, et je leur dis, mais il faudrait qu'on trouve un événement qui, cette fois-ci, mette dans le coup les gens eux-mêmes, et pas seulement les professionnels ou les artistes. La musique est venue à l'esprit, évidemment, traversant les générations. En même temps, ça permettait, vous l'avez tout à l'heure expliqué très très bien aussi, il y avait tellement de cloisons en France, il y en a encore, séparant la musique classique d'un côté, les musiques actuelles, qu'on appelle d'ailleurs pas actuelles, les musiques traditionnelles, les musiques contemporaines, que nous nous disions aussi qu'il fallait en faire la fête de toutes les musiques, abolissant les frontières, ne pas dire établissant la confusion. Bon voilà, on s'est dit, et si on proposait aux gens de sortir de chez eux, et d'eux-mêmes, tel jour à telle heure.
Vous disiez, c'était une idée potache. Vous étiez...
Moi, j'avais toujours eu des idées comme celle-là quand j'étais à Nancy au Festival Mondial du Théâtre. Moi, j'aime ça, ce genre de choses un peu, en effet, de potache. Il faut savoir s'amuser aussi. Et dans la bonne idée qui était dictée par les circonstances, c'est le 21 juin. On rêve du truc en décembre, la neige tombe.
On est triste, il fait nuit toute la journée.
On a froid.
21 juin, l'été. Alors, la nuit la plus courte, la journée la plus longue, surtout la saison des lumières, la saison des amours, la saison des rencontres, la saison des espoirs, etc. etc. Voilà.
Et vous aviez peur que ça ne marche pas à l'époque. Et vous dites, on va prévoir ça sur une petite heure, entre 20h et 21h.
Ah oui, j'ai eu le plus grand trac de ma vie. Plus grand que pour passer la grègue ou pour passer le bac. Hein. Et on se disait, mais si on se cassait la figure? Si les gens ne sortaient pas de chez eux? Puis finalement, le miracle s'est produit. Les gens sont venus, les uns après les autres. Il est vrai qu'on avait préparé deux, trois choses.
En partie, oui, ça vous saviez faire aussi.
Tout à l'heure, bravo. Bravo, encore à vous, parce que votre émission est remarquable. Jacques Higelin est un des artistes qui s'est prêté au jeu, on l'a aidé à louer un immense camion qui se déployait, et il a embarqué avec lui des musiciens il a traversé tout Paris, c'était une sorte d'escapade, de parade musicale. Alors par ailleurs, avec, je crois que c'est en 82 ou 83, cette femme merveilleuse qui avait créé Radio 7, je ne retrouve plus son nom à l'instant.
Jean-Éric Perrin ou Yves Bigot peut-être, les encyclopédies Bigot, vivantes de la...
Oui, Marie-France Brière.
Marie-France pardon, ah, Marie-France.
Mais oui, ouais, on l'a pas dit.
Marie-France, mais j'ai peu
Yves
dormi.
Bigot, vous appuyez sur une touche, j'y réponds.
Des années sur Europe 1, Marie-France.
Mais je sais,
plus,
c'est une femme fabuleuse. Elle aussi, elle était un peu potasse comme nous. Elle osait, elle n'a pas froid aux yeux. Et elle nous a beaucoup aidés. Et on a imaginé avec elle, tout à l'heure vous avez évoqué les branchements électriques. Eh bien, avec elle, on a mis des branchements électriques dans tous les jardins du Trocadéro. Et on a pu installer des groupes de rock. C'était inimaginable à l'époque.
Yves Bigot, vous étiez dans cette dynamique à cette époque-là.
Et Yves, merci Yves, parce que lui aussi, il y a cru et nous a soutenus avec énergie et enthousiasme.
Vous étiez dans cette énergie-là, Yves, celle de créer un événement à l'époque.
Oui, bien sûr, et puis vous l'avez dit, et Jacques Lang l'a dit très bien, il y avait un bouillonnement musical et culturel qui existait en France, mais qui jusque-là était underground, et n'était pas ni officialisé, ni reconnu, on va dire, par la culture. Et le fait de créer la fête de la musique de cette manière, c'est ce qui en a fait le succès. C'est pour ça que ça a été une telle explosion. C'est le principe de la cocotte minute, en fait, et... Jacques, vous avez été celui qui a permis à la vapeur de s'échapper en jaillissement spectaculaire.
Et la vapeur est dans le studio d'Europe 1 aujourd'hui, donc on en est très fiers. Vous serez où, Yves, ce soir pour cette 38e fête de la musique ?
Alors ce soir, je serai revenu à Paris entre-temps, et TV5 Monde est partenaire de la fête de la musique au ministère de la Culture ce soir à Paris, puisque... tous les ministres de la Culture qui ont succédé à Jacques Lang, qui lui revient régulièrement être ministre de la Culture,
vont faire une chorale. C'est ça,
tous les ministres de la Culture. Non, mais surtout, ils ont maintenu, je veux dire, il faut donner ça à leur crédit, c'est d'avoir maintenu cette manifestation remarquable et de continuer à la soutenir aujourd'hui.
Eh bien, bonne fête de la musique, Yves. Jacques Lang vous salue. Yves a des obligations.
Yves, merci. Non, merci, Yves, pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites, et pour l'amour qui vous porte en permanence.
L'amour de la musique qui nous réunit. Tous, vous serez où, vous bonne journée
j'ai
à vous.
Pas décidé encore.
Pas décidé, c'est ça.
C'est ça qui est bien.
On peut aller se balader, c'est ce que je me suis dit.
Peut-être
moi.
J'irai dans mon quartier, tout simplement.
Ouais, Paris 14e. Moi, je vais remonter la rue Daguerre, cher Agnès Varda, et essayer de voir, là, grappiller des petits moments de musique. C'est ça aussi, la fête de la musique. On fait le tour de la question.
Il faut pousser
ensemble.
Les portes des églises aussi. Il y a toujours plein de trucs dans les églises.
Absolument. Pousser les portes.
Formidable.
C'est aussi une belle manière de vivre la fête de la musique.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. La solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Fête de la musique, 38 ans après, encore et toujours.
Et nous sommes avec 38 ans après son créateur Jacques Lang, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio ici. Nous sommes avec Jean-Éric Perrin, mémoire vivante de la musique en France. Et n'hésitez pas à téléphoner au 3921 pour nous donner vos témoignages. Bon, on en avait quelques-uns qui viennent dire, mais des grognons, on ne va pas donner la parole aux grognons, on n'a pas envie, on est le 21.
Pourquoi pas.
Quelques auditeurs qui nous disent, c'est surtout la fête du bruit ou la fête de l'alcool. Oui, on fait la fête, oui. La musique, ça fait du bruit. On est le 21 juin. Et puis, c'est ma foi, de toute façon, on ne dormira pas beaucoup puisque c'est la nuit la plus courte de l'année. Donc, autant en profiter. Quand on disait, Jacques Lang, que la fête de la musique a accompagné aussi les mouvements de la société et qu'on vous a demandé, est-ce que vous avez des souvenirs, vous, écoutez.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je t'aime.
Rachita, il aimait la France. Malheureusement, on est obligé de parler au passé. Rachita, qui nous a quittés, chanteur de Carte de séjour. Quel Paris gonflé à l'époque que cette bande de gamins des quartiers, comme on disait, qui s'accapare un patrimoine national français, qui le fait sien et qui le revendique. Ça a été un moment très fort, ce Carte de séjour et ce Douce France qui a accompagné les fêtes de la musique des années 80, Jacques.
Oui, c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai dû me faire un peu médiateur avec Charles Trenet, que j'aimais, ah oui. que j'aimais beaucoup, et Rachita et ses amis. Il y a des problèmes de droit, d'adaptation, d'autorisation, et j'ai dit à Charles, là, pour une fois, allez-y, et accordez...
C'est plus qu'une chanson, c'était un acte quasi politique.
Et alors, la chose extraordinaire, c'est
que
Charles, qui... moi, j'avais des rapports avec lui très intimes, très, très amicaux, très complices, et je l'ai même convaincu de distribuer le single, on disait comme ça, le single... de Douce France, à l'Assemblée nationale, lui il n'avait jamais été un militant politique, aux députés, et de le faire remettre à Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, qui à l'époque menait une politique qui n'était tout de même pas toujours très sympathique pour les...
C'était dur en France, un peu, parfois.
Voilà, pour les sans-papiers, etc. Et donc c'était absolument surréaliste, et baroque.
Et ce qui est extraordinaire, Jean-Éric Perrin, c'est que ce morceau est devenu un morceau emblématique de ces années-là. La musique accompagne le monde et le pays.
Oui, effectivement, c'était un petit morceau du patrimoine qui était revisité, remis au goût du jour et remis à la couleur du jour, qui est effectivement la couleur de la France d'aujourd'hui et du moment où elle était, de ce qu'elle était quand Rachita et ses camarades ont repris cette chanson. Ouais.
La spontanéité et l'authenticité de la fête de la musique, il faut l'entretenir comme un feu pour éviter que ce soit récupéré, parce qu'on voit des grandes marques qui s'accaparent, des sponsors qui transforment ça en intérêt commercial. Il y a ce risque-là également, Jacques Lamont.
Non, ce risque existe, mais comment dire, il me semble que c'est ça la force de l'événement, c'est que ce sont les Français eux-mêmes qui se sont appropriés l'événement. C'était d'ailleurs, d'une certaine manière, ma première idée, c'est-à-dire que les musiciens ou musiciens amateurs ou professionnels ou amoureux de la musique soient les co-inventeurs, les co-auteurs d'un événement qui serait le leur. Et aujourd'hui, ça appartient aux gens eux-mêmes. C'est dans leur tête, dans leur cœur, dans leur imaginaire. Il est au pouvoir d'aucun gouvernement, d'aucune autorité de l'empêcher.
Juste de l'impulser, c'était ça l'action politique,
exactement.
Finalement.
Est-ce qu'il fait, il y a une cinétique, si j'ose dire, propre à l'événement, qui entraîne des initiatives, lesquelles entraînent d'autres initiatives, dans les villes, les villages, les quartiers et ailleurs. Ça, c'est à mon avis la chose la plus... Et finalement, d'ailleurs, c'est un événement qui est tout à fait différent des autres. On dit fête, on peut trouver un autre mot. C'est un moment tout à fait spécial, qui, comme une sorte d'un moment un peu civique, entre guillemets, c'est-à-dire que tout à coup, on est comme hors du temps, tout en étant dans le temps. Touchons du bois, généralement, il ne se produit pas de violence. Parce que les gens ont le sentiment là que c'est quelque chose qui est très précieux. C'est une sorte de communion ou de partage que, pendant 24 heures, et il ne faut pas y toucher. À un moment donné, je me souviens qu'un gouvernement avait proposé de décaler le jour de la fête de la musique pour des raisons de sécurité. Rébellion généralisée. Non, la sécurité, c'est nous. C'est nous, les citoyens amoureux de la musique, qui allons l'assurer. Il n'y a pas eu d'incident, d'ailleurs. Et si elle a un tel succès aussi hors de France, c'est qu'elle a pris ce caractère. Il y a un très beau texte d'Edgar Morin, qui était la préface à un livre sur la fête de la musique publié par Le Seuil, que Jean-Michel Djian, je crois, avait écrit, où il dit, Edgar Morin, que c'est devenu, cette fête du solstice d'été, comme un acte comparable à ce que pouvait être il y a très longtemps le 14 juillet, c'est-à-dire les citoyens en acte, les citoyens auteurs, acteurs et inventeurs d'un moment qui est le leur.
Oui, c'est une connexion d'ailleurs avec une tradition millénaire, puisque au Moyen-Âge, on faisait la fête aussi avec les instruments qu'on avait à l'époque, le 21 juin. C'était, en fait, on a retrouvé cette chose qui était quasiment innée et qui avait disparu, voilà, parce que l'époque n'était plus à ça. Mais effectivement, c'est la date est absolument impossible à changer, puisqu'elle elle renoue avec ça, avec cette tradition millénaire des fêtes de solstice qui sont des fêtes païennes, populaires.
Vous l'avez bien dit, Jean-Éric Perrin, c'est en effet une fête païenne ressuscitée.
Et ça fait du bien de faire la fête, tout simplement. Allez, il nous reste une dernière ligne droite pour évoquer cette fête de la musique, puis on rendra un hommage, parce qu'on est un peu en deuil aussi au moment où on fête la musique, puisque Philippe Zard nous a quittés aussi, et il était l'un des porte-drapeaux, justement, de cette French Touch, de cette musique française qui irradie dans le monde. On va lui rendre un petit hommage pour finir. Il devait se produire ce soir, d'ailleurs, à Paris, à l'occasion de la sortie de leur nouvel album. On parle de Cassius, bien évidemment. Mais la musique va permettre de, peut-être, soulager un peu ce deuil, justement. Elle sert à ça aussi. À tout de suite.
Nous évoquons jusqu'à 10h la fête de la musique dont le créateur est avec nous en studio, Jack Lang, et nous sommes également avec le critique de musique Jean-Éric Perrin.
Nous évoquions à l'instant le texte d'Edgar Morin qui est magnifique, hein. Il raconte une déambulation dans Paris entre le quartier latin et la place des Vosges. Il a cette phrase là que j'ai beaucoup aimée: toute fête repoétise le monde, repoétise nos vies, et on a besoin de cette repoétisation. Également, Jean-Éric Perrin nous a permis de découvrir, on évoquait l'évolution de la musique, mais à des genres musicaux, de prendre leurs lettres de noblesse. Vous qui venez d'écrire sur le rap notamment, le rap est sorti de, j'allais dire, des cages d'escalier, de l'underground, aussi grâce en partie au fait de la musique. Et c'est oui, le cas de la musique électro aussi.
Dans la banlieue où j'habite, il y avait au stade, à Châtillon, pour ne pas la nommer, il y avait une scène établie sur le stade, enfin, il y a quelques années déjà, et c'était ouvert à tous les musiciens amateurs. Donc, qui sont les musiciens amateurs, jeunes, dynamiques, qui ont envie de se montrer, de commencer à célébrer un acte de naissance de leur pratique musicale, sont bien évidemment les rappeurs, puisque c'est aujourd'hui la pratique musicale et le genre musical le plus populaire en France.
Et autre genre populaire qui a connu un essor, c'était il y a un an, jour pour jour, et vous vous en félicitiez, Jack Lang, la musique électro entre dans le palais de l'Élysée.
Oui. Non, mais bon, j'en étais très heureux. Il y a eu quelques grincheux ou quelques esprits tordus ou trop politisés qui ont fait reproche au président d'avoir introduit la musique techno à l'Élysée. Bon, j'étais très, très, très heureux. Comme, de même que la parade techno que j'avais contribué à faire créer il y a une quinzaine d'années permettait à la musique techno, qui était abusivement décriée, excommuniée et diabolisée en France, de conquérir un droit de cité.
Et vous pouvez d'ailleurs actuellement aller jusqu'au mois d'août aller voir la magnifique exposition à la Philharmonie qui raconte de Kraftwerk à Daft Punk, tout l'historique de cette musique et comment elle s'est intégrée à la, vous imaginez, la musique électro, à la Philharmonie.
Mais
c'est
oui,
ça aussi l'évolution.
Oui. C'est grâce en particulier à ce, nous avons des chances quand même de vivre aujourd'hui, à ce Laurent Bell, le directeur, le patron de la Philharmonie, qui a inventé une programmation absolument époustouflante, qui est un peu à l'image de ce que nous disons aujourd'hui, c'est-à-dire la musique symphonique, oui, mais aussi les musiques contemporaines, les musiques du monde. Il a donné sa chance aussi à des jeunes d'apprendre des instruments de musique grâce à son mouvement Demos. Enfin, c'est réjouissant quand même de constater qu'il y a des lieux comme celui de la Philharmonique, et la Villette à côté aussi, qui fait,
absolument,
avec Didier Fusilier, ils font des choses fabuleuses.
On évoquait tout à l'heure avec Jean-Éric Perrin, quand on allait voir des concerts de Frank Zappa, ou de, je me souviens, j'ai été voir
Rolling
le groupe
Stone,
Jam, là-bas, au Rolling Stone, dans d'improbables chapiteaux, sans aucune norme de sécurité, on marchait dans la boue pour aller écouter de la musique. Quand on voit ce qui est devenu aujourd'hui cette esplanade au nord de Paris, on voit toute l'évolution qui a été faite.
Vous savez que une de mes premières sorties, pardon, comme ministre de la Culture en 81, fut d'aller à un concert du groupe Téléphone, à Pantin, justement. Et je suis allé les voir après, pour prendre un verre, et je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire comme ministre pour la musique. Ils m'ont dit la première chose: construisez une salle simple dans laquelle il n'y a plus de poteau qui empêche de voir.
Et qu'on puisse vivre la musique.
Et qu'on puisse vivre la musique.
Et rêver d'un autre monde, j'allais dire.
Rêver d'un autre monde et ne pas aussi circuler dans la gadoue et avoir une acoustique correcte. D'où le Zénith.
Et les Zéniths qui ont accompagné, on l'évoquait tout à l'heure, ce mouvement également en région, une petite ombre à cette fête de la musique. Mais on veut terminer par ça parce qu'on va lui rendre hommage. Et il aurait dû être là. Et cette musique, elle est allée dans le monde entier. Cassius, évidemment, avec M. Voilà, c'est une manière de prolonger également ce beau moment qu'on a vécu ce matin sur Europe 1 avec M. Mathieu Chédid qui s'est baladé avec sa guitare dans le jardin du Luxembourg devant des étudiants de première, des lycéens du lycée à côté qui mangeaient leurs chips et il a commencé à chanter devant eux. Il y a eu un moment de grâce qu'on a vécu ce matin.
Et Tété qui est venu en direct et dans le studio avec Nikos.
Qui était là avec Nikos tout à l'heure dans le studio parce que c'est aussi ça... la fête de la musique et M là se produisait créé avec Philippe Sdard à qui on rend hommage et qui nous a quitté trop vite hier. Merci beaucoup, on aurait pu continuer des heures sur cette fête de la musique.
La journée.
En tout cas, on va continuer.
On va continuer à faire de la musique
et puis écoutez Europe 1 toute la journée évidemment. Merci à vous Jacques Lang.
Merci et bravo pour cette très belle émission.
À l'année prochaine pour la 39e on va dire. Allez, merci à vous Jean-Éric Perrin.
Merci à vous.
On se plonge dans l'art du rap aux éditions Palette et puis on remercie Yves Bigot qui était avec nous au téléphone, TV5 Monde qui va ce soir retransmettre devant, il nous a dit combien, 370 millions de téléspectateurs à fait de musique. C'est ça aussi, la musique.
A tout de suite François Claus.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.